c'est Entre les poteaux,
Georges Quirino.
Et on est ravis de vous retrouver avec les poteaux, des poteaux qui sont les seuls en Europe, voilà, en ce début de semaine, à pouvoir rêver du grand chelem. Les Anglais ont chuté à Murrayfield, les Bleus ont bouffé du poireau tout cru à Cardiff avec 8 essais. Et c'est vrai que là, ils commencent sérieusement à nous enthousiasmer, les amis, les hommes de Fabien Galthié. Nous et vous, nos auditeurs et auditrices, j'en suis certain. On va se poser cette question aujourd'hui après Galles-France. Est-ce qu'il est trop tôt pour s'enflammer là? Parce qu'il y a une ambiance un peu d'enflammade qui est en train de s'emparer de la France et de l'Europe, peut-être. Voire du monde, du rugby, ouais. Derrière cette équipe. Denis Charvet, la salle Denis.
Salut, Giorgio.
Ça va, Denis?
Impeccable, écoute, on a fait l'aller-retour.
Ouais, il paraît que t'as fait...
J'avais envie de voir Pierre et Wilfried.
5 heures à Cardiff, il a fait, Denis. Un record.
5 heures, un peu plus.
6, allez. Ouais, 6, arrivé, 6, arrivé 11 heures, reparti 18 heures.
Ouais. Salut Pierre Thévenet, ça va?
C'est ça, les stars.
Salut Julien Landry.
Salut Georges, salut à tous.
Non, mais attends, c'est ça, les stars. Pourquoi il y avait un R Charvet
pour aller à... Bien sûr, oui.
Pour aller à Cardiff. Prêté spécialement.
Spécialement.
Un avion affrété spécialement, ouais, pour toi,
Petit avion.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Et pendant ce temps, on était dans la bétaillère, nous.
On va vraiment les cons.
Oui, mais alors, il m'a dit ça après le match.
Je
repartais.
On lui installe tout, tu sais, genre.
Alors, écoute, je repartais.
Pierre m'a dit petit café à la mi-temps.
Nous, on va aller dans la bétaillère.
Hein.
Non, mais je lui dis, nous, on va aller dans la bétaillère. Il me dit, Pierre, je dis, oui, mais t'as d'abord, un, t'as pas joué au rugby. Deux, t'as pas mon âge. Donc, tu vas attendre.
Ouais, mais. Guy Akosseberry, il était dans les bétaillères avec nous ce matin.
Ouais, mais il le mérite, lui. Il n'a pas été assez bon. On embrasse à Guy. Mais non, pas du tout. Mais non.
Vous savez, évidemment, Entre les poteaux, c'est toujours un podcast qui est dans l'humilité, avant tout, et dans la bienveillance.
J'ai profité des largesses d'un ami.
On l'embrasse à Guy.
À Guy, bien sûr.
L'embrasse. Mais oui, là-bas. Moi, je suis obligé.
On l'embrasse dans les poteaux, c'est normal. Ça passe dans les poteaux. C'est accepté.
C'est sûr qu'on ne peut pas le faire dans tous les podcasts.
En tout cas, c'était un régal. Cet aller-retour, c'était un régal.
Oui, bon,
match
sûr.
Historique.
T'es pas fatigué, t'es rentré chez toi hier à 20h, t'étais là, à 21h.
Non, j'étais au deuxième mi-temps du Stade Toulousain qui a battu le Stade France.
Bon, écoutez, le top 14, on va évidemment pas trop en parler aujourd'hui. Je vous rappelle, vous pouvez trouver l'équipe type des poteaux de la 17e journée de top 14 sur rmcsport.fr. Hein, voilà, Toulouse qui gagne, Toulon en difficulté.
Montpellier qui, attention, qui revient
Montpellier
fort.
Qui est fort. Et ouais, effectivement, donc on va en parler évidemment dans les prochains podcasts, mais là on est vraiment. En mode tournoi destination. Bien, tiens, justement, tout de suite, on se fait le week-end des poteaux du tournoi.
L'Irlande qui s'en sort, première victoire dans ce tournoi après la défaite au Stade de France la semaine dernière. 3 essais à 1 pour le trèfle, 20-13 pour le score final. Pas de bonus donc pour l'Irlande, mais les Italiens ont mis en difficulté jusqu'au bout ces Irlandais. Et en ce jour de Saint-Valentin, l'Écosse s'offre la rose et anéantit les rêves d'un premier grand chelem depuis 10 ans. Côté anglais, 31-20, score final, victoire bonifiée pour l'Écosse. 4 essais à 2 avec Ben Earl qui a réduit l'écart en fin de match pour les Anglais. Mais c'est donc la fin d'une série de 12 succès de rang pour l'Angleterre.
C'est terminé, victoire 54-12 de l'équipe de France, victoire fleuve des Bleus, 8 essais marqués, bonus offensif, la tête au classement, destination avant de jouer l'Italie, l'opération Grand Chelem est toujours en cours.
Et on est les seuls à pouvoir le dire, l'opération Grand Chelem est toujours en cours. Les Anglais ont chuté à Murrayfield, 31-20. Les Italiens ont fait peur aux Irlandais. Mais finalement, le 15 du trèfle s'est imposé 20-13. On va faire les meilleurs et les pires poteaux de cette journée du tournoi. Denis, ton meilleur poteau ?
Meilleur Broboari. Putain, c'est le nom qu'il faut enchaîner, tu vois. Ouais. Broboari. Voilà. De son prénom, Fabien.
Fabien.
On le connaissait, moi je ne le sais pas trop, je l'avais vu un peu en top 14, mais il m'avait étonné à Toulouse, où il avait fait un gros match, même s'il avait perdu. Moi, il m'a bluffé. Il m'a bluffé parce que j'ai rarement vu un joueur faire une première sélection comme ça avec autant d'autorité, autant de facilité, comme s'il était totalement libéré. En général, c'est au bout de 10 sélections que tu arrives à te libérer comme ça. Lui, c'est assez étonnant. Voilà. En plus, il est beau à voir jouer, il est facile, il rentre dans les défenses, tu sais pas comment, avec des petits crochets, des petits, il est à droite.
Et puis il est costaud défensivement.
Défensivement, c'est un monstre, et puis il fait jouer après lui, quoi.
Il a Yannick Jozion.
Oui, Yannick Jozion, mais
c'est vrai qu'on entend ça tout le temps.
Mais pour
maintenant,
la petite anecdote sur Yannick Jozion, ça a fait très mal à Wilfried Templier et aux autres collègues hier. On lui demande à Fabien Broboari, Qu'est-ce que t'en penses cette comparaison?
Il ne connaît pas.
Il répond, j'ai jamais vu jouer Yannick.
Toi, tu l'as déjà vu jouer, Pierre Thévenet, Yannick Jourdion.
J'ai 50 plus que Brobouari quand même, je l'ai vu un peu jouer.
Est-ce que Brobouari derrière dit, alors que Denis Charvet...
Non,
j'espère que pour la transmission, Brobouari est allé voir le palmarès.
Il a dit, j'ai regardé les highlights.
Ah bon, quand même.
De Jourdion. On va en reparler plus en profondeur du 15 de France tout à l'heure et de cette jeune garde qui n'a pas froid aux yeux quand elle met le maillot bleu pour la première fois. Ton meilleur poteau, Julien?
J'aurais pu dire Fabien Galthié, mais on va en reparler.
Ouais.
Je vais dire Spagnolo, juste pour l'image du week-end. Le pilier italien qui a relevé Furlong sur une mêlée. Ouais. Incroyable.
Non,
je vous conseille d'avoir cette image. Furlong, c'est un papier qui est plié en deux.
Ouais, alors,
Spagnolo, il est passé dessous. Non, mais elle est incroyable, cette image.
Ouais, mais je pense que Furlong, il est au bout du rouleau. Hein,
bah, ouais.
Alors, j'ai l'impression que
je choisis Spagnolo pour récompenser malgré tout les Italiens. On en avait parlé avec Pierre, Georges, au début du podcast, en disant que ça pouvait être notre surprise du tournoi.
Vous avez dit peut-être quatrième.
Moi, je les ai même mis troisième. Moi, je les ai mis troisième, j'avoue. Non, mais je trouve que voilà, ça confirme en tout cas que cette équipe-là progresse, que ça sera un match difficile dimanche après-midi, même si les Français sont au-dessus, on en reparlera. Mais voilà, je trouve que cette équipe progresse, qu'elle commence à avoir des certitudes. Ils n'ont jamais gagné en Irlande, ils sont pas loin d'embêter les Irlandais. Ils ont fait un gros match contre les Écossais. Voilà, ils vont pas faire la cuillère de bois et je pense qu'ils seront pas non plus cinquième dans ce tournoi. Voilà, c'est pour saluer le travail de Quesada et des progrès de cette équipe italienne que je trouve séduisante en tout cas à voir jouer depuis que Gonzalo les a pris les rênes.
On va en reparler tout à l'heure en fin de podcast et on en reparlera certainement vendredi aussi dans l'avant-match de ce France-Italie. Ton meilleur poteau, Pierre?
Le dernier match, cette Calcutta Cup, ce Écosse-Angleterre qui pour moi est le meilleur match du tournoi avec le crunch peut-être, mais en tout cas celui de la plus belle rivalité. Les Écossais qui étaient au fond du saut la semaine dernière sortent une perf incroyable comme à chaque fois dans cette Calcutta Cup. Ils battent très largement l'Angleterre, ce qui pour le coup m'étonne parce que je voyais bien une finale pour le Grand Chelem en fin de tournoi. Mais en tout cas, voilà, la perf des Écossais dans cette Calcutta Cup qui, en plus, je trouve, relance un peu l'intérêt de notre déplacement à Murrayfield qui va peut-être être moins facile que certains pouvaient
penser. Là, c'est sûr que maintenant, ça commence à nous faire trembler encore un peu plus. On avait parlé de match piège dès le début de ce tournoi. Ça ressemble de plus en plus. Pierre Poteau, Denis?
L'Angleterre. L'Angleterre, parce qu'ils m'ont réellement déçu. Ils n'étaient pas sortis du terrain au bout de 15 minutes. Ils n'avaient pas touché un ballon, ce qui est assez incroyable. Et puis après, une indiscipline avec 3-4 cartons jaunes, je crois, ou avec un bunker.
Un double jaune, café rouge.
Oui, café rouge. Bon, enfin... Tu peux pas gagner en Écosse avec autant de déchets. Techniquement, il y a eu beaucoup de déchets aussi.
Voilà, je pensais que d'idées, quoi.
Je pensais que l'Angleterre avait s'était améliorée, avait progressé. Et puis là, tout d'un coup, il y a une grande marche arrière.
Grande marche arrière. Est-ce que ça fait partie de vos pires poteaux aussi, Pierre?
Moi, j'avais mis, je veux pas m'acharner, mais Sam Prendergast, l'ouvreur irlandais.
Ah là là. Ouais.
Non, mais c'est.
Non, mais la transformation, Pierre, la première transformation, 15 mètres face
au perche.
Ah ouais, mais c'est incroyable.
C'est sa grande force, ça, normalement, c'est le jeu au pied. Après,
depuis le début du tournoi,
on se dit que Andy Farrell, Jonathan Sexton, ils doivent savoir ce qu'est un bon ouvreur et donc ils ont des raisons de le mettre. Mais c'est vrai que dès que Jack Crawley rentre, ça va mieux pour l'Irlande, ça joue mieux, c'est plus fluide. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre l'acharnement des Irlandais à faire jouer Prendergast toutes les semaines vu ses performances.
C'est quoi, Julien? Ça veut dire c'est ton pire poteau aussi? Mais bon, tu.
Non, mon meilleur poteau c'est Fabien Galthié. Mon pire poteau c'est Fabien Galthié. Comme ça, tu vois, je suis cohérent. Non, c'est ce que je déteste dans cette équipe de France, même si Fabien s'en défend, c'est ce coaching programmé, préparé. Alors là, il y avait des circonstances. On rejoue contre l'Italie à la.
Il a dit que ça l'était pas.
Oui, il dit que c'est les pas, mais c'est exactement le même coaching que contre les Irlandais. Et là, il a fait différent. Il a pas voulu faire rentrer les 6 en même temps. Il a laissé une minute avant de les faire rentrer. Non, même s'il dit que c'est pas programmé, alors il a fait souffler les joueurs. Mais voilà, moi, quand je suis Julien Marchand, je reste persuadé que Julien Marchand, il peut faire une heure et que ça l'aurait pas fatigué plus que ça en vue du match de l'Italie. Voilà, je trouve que parfois, coaching de Fabien Galthié a parfois tendance à déstabiliser l'équipe de France.
Ouais,
ça a été le cas contre l'Irlande. Ça n'a pas été le cas contre les Gallois, c'est très faible. Mais Denis, moi, ça m'embête, en fait, ce coaching programmé. Alors, tu leur dis, sûrement, Julien Marchand, tu fais 50 minutes à fond. Mais voilà.
Ça m'a moins dérangé parce qu'on maîtrisait le match, tu vois.
Je
il y a une telle différence.
Mais quand Patrick Arletaz, Pierre a posé la question, c'est qui le meilleur joueur du monde? Il a dit Marx. Eh bien, Marx, il fait 80 minutes avec les Springboks. Je pense que Marchand, il peut faire une heure sans que ça.
Oui, mais enfin, normalement, le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, il fait toujours 80 minutes. Et là, je trouvais intelligent de la part de Fabien Galthié de l'avoir sorti à la 60e minute.
Ce coaching, programmé à la 50e, forcément, il faut qu'on fasse rentrer tout le banc. je suis parfois sceptique sur cet intérêt-là.
C'est fou, hein. Julien, il peut pas s'empêcher de parler de Fabien Galthié à tout moment. Il arrive
mais
au resto.
J'avais dit que j'allais en parler en bien aussi.
Prenez quoi en entrée? Fabien Galthié.
Fabien Galthié. J'avais dit que j'en parlerai en bien. Monsieur. J'en reparlerai en bien plus tard.
Bah, tiens, bon, on va en parler justement des Bleus dans un instant. Juste, je rappelle le calendrier. Hein. Il va y avoir donc, Angleterre-Irlande samedi à 15h10. Voilà la troisième journée. Galles-Écosse à 17h40 samedi également avant le France-Italie. On va en parler tout à l'heure de dimanche. Allez, tout de suite, on s'embrase ou pas après l'orgie d'essai à Cardiff?
Et sur la route du Grand Chelem, l'épisode 2 passe par Cardiff. Les Bleus sont là pour prendre la tête du tournoi destination et jamais de la lâcher. France Pays de Galles, c'est parti. Et il y a une percée d'Adisson Bay. Adisson Bay pour Charles Olivon. Ça va être un essai à l'intérieur. Et l'essai. Emilien Gailleton qui va marquer la première étincelle pour les Français. Allez, encore sur l'extérieur, le coup de pied chip pour lui, Bielberet dans l'embûche. Essai de Louis Bielle-Biarré.
Oh, l'accélération, Brombouri va marquer. Brombouri, premier essai pour sa première sélection.
Incroyable, Brombouri, on l'avait annoncé.
Un petit coup de départ au-dessus peut-être pour Ramos ou Atisogbe. Atisogbe, l'essai. Quel essai magnifique, quelle inspiration. Ils ont récupéré le ballon, ils l'ont perdu derrière. Atisogbe intérieur pour Jalibert. L'essai de Jalibert. Julien Marchand, il est au cœur du rang, on avance, on va jusque dans l'embut. Est-ce que l'essai est accordé? L'essai, il est accordé à Julien Marchand, certainement. Oh, Tissot-Mé, sur le compte bien.
Essai
de les fusées françaises. Et sur cette passe extérieure de Ramos, Bielle-Biarré qui a mis la première et Atisogbe intérieur qui remet la deuxième.
Ouais, Cachistera de Dupont qui était collé au mol et la passe au pied de Mathieu Jalibert dans la bras d'Atisogbe ou pas.
Eh oui, le doublé de Théo Atisogbe.
Charles Olivon.
L'essai de Charles Olivon. Il fait un très grand match.
Énorme Charles match Olivon. De Charles Olivon.
Victoire 54-12 de l'équipe de France. 8 essais marqués. Bonus offensif. L'opération Grand Chelem est toujours en cours.
Denis, je viens de remarquer que tu as toujours besoin de dire essai avant Wilfried Templier.
Essai.
Essai. Non.
Je serai la foire du trône.
Essai.
Je sais pas ce que ça dit de toi, tu vois, de vouloir dire essai avant le commentateur.
Je dis pas avant.
Il y a une volonté de protagonisme.
Non. Non, c'est dans la foulée.
C'est pour dire qu'il sent le jeu.
C'est une charnière. Vous accompagnez avec Will. C'est magnifique. J'ai envie de pleurer. On espérait, on réclamait une claque du 15 de France face à des Gallois morts. Bon, à Cardiff, bah on l'a eu, voilà, succès 54-12, vous l'avez entendu, au Principality Stadium avec 8 essais inscrits. Donc les Palois Atisogbe deux fois, Gailleton, Brombouari pour sa première cape, Bielle-Biarré, Marchand, Olivon, même Mathieu Jalibert a aplati au terme d'une rencontre XXL de sa part. On va en parler, il a été élu homme du match. Les Bleus impressionnent donc et sont les seuls à pouvoir faire le grand chelem qui nous échappe depuis 2022. La question qui va nous animer aujourd'hui, c'est: est-il trop tôt pour s'enflammer avec cette équipe alors que tout le monde s'enflamme autour de ce 15 de France? Est-ce qu'on n'a pas la meilleure génération sous l'air Galthié? Est-ce qu'on va faire le grand chelem? On va se poser toutes ces questions. Bon. Mais d'abord. Bon. Attendez, vous prenez pas la tête dessus tout de suite. Merci pour cet hommage à Roland Courbis. D'abord, les amis, vos impressions sur place et un peu à distance, Denis, sur ce match donc au Pays de Galles. On attendait une confirmation de ce qu'on a vu face à l'Irlande. C'est difficile d'en ressortir quelque chose de très concret.
On a tout anticipé, on savait très bien le résultat à l'avance, on savait très bien la forme aussi. Il n'y a aucune surprise sur ce qu'on a vu, sur le rendu, excepté que les joueurs sont en forme. Je pense qu'il y a quand même physiquement des joueurs qui sont au top, il me semble, donc c'est de bon augure. Mais après,
ils rentrent dans les matchs avec le couteau entre les dents. Hein.
Oui, non, mais il y a une vraie émulation. J'ai l'impression qu'il y a une vraie dynamique maintenant l'équipe de France qui avait pas eu à l'automne dernier. Pourquoi? Parce que je pense que physiquement on marquait un petit peu le pas. Là, il y a eu un groupe qui s'est régénéré, des joueurs qui sont rentrés. Ben, on a bien vu l'apport quand même des deux centres qui arrivent très frais, très insouciants, très inconscients, en fait, par rapport à l'événement et qui perturbe tout, quoi, en fait, parce que même la hiérarchie va être perturbée au centre, hein, c'est évident. Donc bon, il y a beaucoup de satisfaction. Je trouve qu'en premier lieu, c'est plutôt la charnière qui me donne extrêmement satisfaction. Dans le sens où, pendant longtemps, on a dit Jalibert, pourra pas mettre Jalibert, va s'associer avec Antoine Dupont parce qu'Antoine Dupont garde trop le ballon. Ben on voit les effets que ça fait maintenant sur le collectif.
On va en reparler de cette charnière, mais tes impressions sur place
Au-delà de la forme des Bleus, moi je trouve que c'est les intentions des Bleus qui sont confirmées être plus ambitieuses que ce qu'on avait l'année dernière. Quand on regarde la première mi-temps, ils jouent même un peu trop. Ils veulent jouer tous les ballons, on sent, et aussi parce qu'ils savent qu'ils sont supérieurs et ça doit jouer. Mais Fabien Galthié, après le match, dit qu'ils auraient pu encore plus marquer. Et quand on regarde ce 54-12 par rapport au 48-0 de l'année dernière de France-Pays de Galles, je trouve que dans l'intention, c'est un peu différent. Il y a tout le monde qui participe au jeu, on va systématiquement chercher l'extérieur, on essaie de mettre de la vitesse, on relance les ballons. Et je trouve que cette nouvelle identité qu'on voit désormais clairement, c'est ça qu'il faut relever. C'est contre le Pays de Galles, c'était très facile, on le sait très bien. À voir si ça va être poursuivi, mais je pense que ça va être poursuivi sur les matchs à venir.
Au moment de l'enregistrement de ce podcast, il en est le lundi à 14h16. Julien Landry a déjà revu le match 5 ou 6 fois. Voilà, hein, il a fait ses petites capsules là. Non, cette libération là, c'est pas possible. Non, mais avec un petit peu plus de recul, peut-être, Julien, sur ce match, tes impressions.
Non, c'est une. Ça confirme novembre. Je pense qu'il y a une volonté farouche des joueurs de l'équipe de France de faire autre chose que simplement défendre, simplement faire des ballons de récupération et simplement faire de la dépossession. On l'avait déjà vu en Irlande avec cette volonté forte des Français de laisser le ballon sur le terrain, d'impliquer un vrai rythme, des vraies longues séquences. Et j'ai trouvé pareil contre les Gallois, où on a eu cette volonté de jouer, toujours garder le ballon. C'est quoi, 22 offload dans la défense des Gallois, donc ça a une volonté déjà de faire vivre le ballon. Et puis moi, l'essai qui me marque le plus, c'est l'essai d'Ati Sogbé, où je pense qu'il y a le temps de jeu doit être de 4 à 5 minutes. Les Français jouent, perdent le ballon, les Gallois jouent, viennent finir par taper dans la défense des Français. Il tape le ballon en désespoir, et bien dans le chaos là, tout d'un coup, les Français se sont restructurés. On est parti avec Biel-Biarré sur le côté, qui a servi à Tissogbé avec Jalibert. Voilà, il y a une faculté aujourd'hui de cette équipe de France à se nourrir des moindres munitions. On a souvent dit qu'on pouvait marquer sur des dépossessions, qu'on pouvait marquer sur des ballons portés. J'ai l'impression aujourd'hui que cette équipe de France, ça me rappelle un peu le match en Angleterre la saison dernière, Pierre, où les Français n'avaient pas marqué. Mais je l'avais dit, j'ai l'impression qu'en fait
cette équipe dans le jeu finalement.
Ouais. J'ai l'impression que cette équipe de France aujourd'hui, elle peut marquer sur n'importe quelle situation de jeu. Du jeu construit, ce qu'on n'avait pas vu contre l'Irlande, là on a vu des lancements de jeu, des phases arrêtées, des ballons de récupération, de la dépossession. J'ai l'impression qu'elle maîtrise l'intégralité d'une palette offensive aujourd'hui, et c'est effectivement extrêmement plaisant, et ça doit mettre des nœuds au cerveau à l'adversaire, parce que tu ne sais pas comment prendre cette équipe de France.
Ouais. On va développer tactiquement.
Avec une défense très friable.
Oui, bien sûr, c'est très faible.
Oui, bien sûr. On met toujours des guillemets avec...
Bien sûr, t'as raison.
Non,
mais c'est vrai qu'il faut le préciser, mais en même temps, c'est jamais facile, mais quand tu joues des équipes dites beaucoup moins fortes que toi...
Les Anglais, ils en ont mis 40 la semaine dernière. On a fait mieux que les Anglais... Et chez eux, au Pays de Galles.
Et on peut pas systématiquement dire quand ça se passe bien,
exactement,
que c'est faible. C'était faible Irlande, c'était faible Australie, les Fidji en novembre.
En fait, c'est ça la problématique à chaque fois de ces matchs, effectivement. Quelle valeur on donne vraiment à la performance
Le sérieux, parce que c'est jamais
évident. Tu n'as jamais été mis en difficulté, vraiment.
Oui, jamais.
D'entrée de jeu, c'était sérieux.
Jamais, parce qu'il y a une grosse séquence. Il y a 10 classes d'écart, donc tu peux pas être mis en défaut, c'est pas possible.
Alors, tu vois, je critique souvent Fabien Galthié, mais on a le droit de dire aussi que l'équipe de France, elle rend mauvais les adversaires. Tu vois, alors effectivement, Denis a raison, les Gallois, c'est plus le grand Pays de Galles. Mais toutes les équipes qui déjouent, Pierre l'a dit, les Fidji, les Australiens, on se rappelle au tournoi l'année dernière, tu passes 70 points aux Italiens, t'en mets 40 aux Gallois. T'es pas obligé toujours de dire que c'est l'adversaire qui est faible. C'est peut-être aussi l'équipe de France qui rend l'adversaire si faible, parce que l'équipe de France, elle est très forte aussi aujourd'hui. Voilà, il y a peut-être aussi ça qu'elle a
mérité. Mais elle est très forte.
D'ailleurs, les gars, vous avez dit au Pays de Galles, ils disent quoi de nous, les.
Non, mais ils sont avant le match, tous les journalistes gallois ou britanniques nous disaient, vous pensez combien, 40, 50, 60, ils savaient très bien, comme dit Denis, tout le monde savait ce qui allait se passer. Ouais. Mais ils sont, je trouve, très impressionnés par le niveau de l'équipe de France et surtout par le vivier de l'équipe de France. C'est dingue de se dire qu'en novembre, Moefana n'est pas là, c'est la catastrophe. En équipe de France, on ne retrouve pas ce profil et là, on sort Brobouari. Et là, Denis, après le match, nous disait, est-ce qu'il n'est pas plus fort que Moefana, Brobouari ? Il a fait un match en bleu, tellement il est plus complet, sans doute qu'il sait faire plus de choses.
Mais le problème, c'est que Penaud si on fait des performances...
Est monstrueux, et ça, les Gallois, ils sont admiratifs de ce vivier, ils sont envieux.
Non, et puis en plus, il y a l'offensive.
Lundi dernier, Denis, je coupe juste, on disait Flamand, c'est le meilleur numéro 4 au monde, on est obligé de le mettre sur la pelouse. regarde le match de Charles Olivon en numéro 4. Même Flamand, qui est pourtant considéré comme le meilleur peut-être numéro 4 au monde, il a du mal à gagner sa place dans cette équipe de France.
Moi, j'avais annoncé que Olivon jouerait en 4. Hein. Il a joué en 4.
Ouais, mais tu vois, je veux dire, Flamand, c'est un monstre. Mmh. Mais tu te dis, aujourd'hui...
Olivon n'a jamais été aussi fort peut-être qu'il n'a jamais
exactement.
Été.
Ouais.
Tiens, Pierre, t'as parlé il y a quelques instants de Moefana. On rappelle l'information du début de semaine. Hein. Moefana et Tatafu sont forfaits, remplacés par Slimani et Hugo Son, qui intègrent donc le groupe du 15 de France.
Et on savait depuis vendredi dernier qu'il y avait également notamment Pierre-Louis Barassi qui revenait en bleu pour pallier un peu le forfait de Nicolas Deportaire et que les demi de mêlée Le Garec et Lucu ne sont pas rappelés, ils restent pour l'instant en club et c'est Serein et Dobania qui restent derrière Dupont.
Les poteaux, avant de parler des hommes, des joueurs que l'on a vus, des jeunes joueurs notamment, on en a déjà un peu parlé Denis, de stratégie, peut-être des ambitions aussi de ce 15 de France maintenant à venir sur ce tournoi, j'aimerais qu'on parle aussi de ce qui se passe autour de cette équipe. Le match était sur TF1 ce dimanche, hein, maintenant que TF1 a les droits du tournoi, programmé à 16h10 un dimanche, il a rassemblé 7,2 millions de téléspectateurs. C'est autant que France-Irlande qui était jeudi soir sur France Télévisions pour le premier match. Il y a même eu un pic à 8,5 millions en fin de match. Non, mais là, je vous laisse imaginer ce que peut donner, par exemple, un France-Angleterre en dernier match, un samedi soir à 21h.
Ah, ça peut monter à 10 millions.
Après, c'est pas pour minimiser, Georges. Le tournoi à destination a toujours fait des audiences historiques.
Il y a les Jeux Olympiques en face,
Julien. Oui, il y a les Jeux Olympiques. Non, mais le tournoi, c'est dans l'imaginaire des Français. Autant une tournée de novembre sur TF1, ils n'auront pas fait les mêmes chiffres. Mais le tournoi, on a tous des souvenirs de petits. Moi, je me rappelle aller chez mon papy. Mais ça reste marqué dans l'imaginaire des gens de Tour Destination. C'est un moment très important pour les Français. Et du coup, c'est vrai que je pense. Mais alors, en plus, il y a l'équipe de France qui est aujourd'hui sexy. Mais je pense que dans l'imaginaire des Français, le tournoi est un moment à part dans l'année rugbystique et que les Français aiment se retrouver autour de cet événement.
Mais Julien, t'as raison. Mais aussi, tu rappelles quand j'étais gamin et tout ça. Aujourd'hui, l'offre de ce qu'on peut regarder, elle est beaucoup plus diversifiée. On voit sur les matchs de l'équipe de France de foot, par exemple, où l'audience s'étiole un peu plus sur des matchs aussi importants.
Mais
ça ne se casse pas la tête sur le 15 de France et c'est pour ça que TF1 y va. C'est ça que je voulais y parler.
T'as raison, Georges.
Il y avait 15 000 Français dans le stade. L'aéroport de Cardiff annonçait 14 500, je crois, supporters français présents au Pays de Galles. Il y a une Marseillaise qui a été chantée, on avait l'impression, par tout le stade. Il y avait des Allez les Bleus avant le coup d'envoi. Après, le rugby gallois est ce qu'il est aujourd'hui. Le stade n'était pas plein, mais il y avait une espèce de ferveur populaire des tricolores qui était dingue et plusieurs joueurs nous après le match on avait l'impression d'être au Stade de France.
Tiens, on va l'écouter justement, Lenny Nouchi en parlait de cette ambiance à Cardiff.
Moi c'est mes débuts avec l'équipe de France donc j'ai pas forcément l'habitude, mais c'est vrai que en étant sur le banc j'ai pu entendre un peu plus que sur le terrain. Il y avait beaucoup de supporters français, un plaisir qu'ils arrivent à nous accompagner sur des matchs à l'extérieur et c'est vrai que je pense que c'est un réel boost d'énergie quand il y a des moments un peu plus compliqués.
Alors c'est pas nouveau effectivement, même Julien on peut le dire, cette équipe de France elle est toujours suivie sur le tournoi. Sur les matchs à l'étranger, mais Denis, il se passe un truc autour de cette équipe quand même. Il se passe
un truc, bien sûr.
On le voit dans les sondages aussi d'opinion qu'il y a eu récemment. Il y a quelque chose.
Je pense que ça vient j'ai une explication comme ça de basique. Je pense que les joueurs, ce qui rend les joueurs, on sent quand même qu'il y a une vraie dynamique au niveau des joueurs. Je sens que cette équipe, il y a un vrai collectif en fait. Et puis t'as envie de la suivre, t'as envie de l'aimer, t'as envie de la supporter parce que les garçons ils sont sympathiques tout simplement.
Et Julien, ça fait des années que tu tournes autour des 15 de France. Tu vois quelque chose de différent aussi là.
Oui, non, mais en plus, n'oublions pas, il y a une tête d'affiche qui est Antoine Dupont.
Mais oui, bien sûr.
Que le rugby français, il faut remonter à Sébastien Chabal, peut-être, à Frédéric Michalak avant.
Oui, pour avoir une incarnation aussi forte.
Pour avoir une incarnation aussi forte du projet de France.
Guillaume Guirado aussi, quand même.
Non, mais tu vois, par exemple, Guillaume Guirado, moi j'adore Guillaume, c'est mon ami. Non, mais c'est mon ami Guillaume, mais il n'incarnait pas. Celui qui a incarné.
On l'embrasse à
Guillaume. Celui qui a incarné le 15 de France, c'était Fabien Galthié, en fait.
T'as raison.
Là, aujourd'hui, c'est Antoine Dupont qui l'incarne, qui est une personnalité publique. Et les gens, sur TF1, je pense qu'il y a plus de gens qui n'avaient pas l'habitude de voir rugby.
Antoine Dupont, Biel Biarré, mais je vais où? Il y a plein de joueurs comme ça. Thomas Ramos,
Denis,
il incarne
si tu fais le
quelque
test
chose
des Champs-Élysées, cher à Vincent Moscato. Biel Biarré, il peut se promener sur les Champs-Élysées sans trop de problèmes, je pense quand même.
Peut-être, je suis d'accord avec toi.
Dupont, il y a eu les JO et tout aussi.
Oui, il y a
eu
les JO.
Je ne peux pas résumer ça qu'à un seul joueur. Je pense pas. Parce que aujourd'hui, l'équipe, elle est incarnée justement. Il y a un truc qui est fort, qui a envie de les supporter naturellement.
Alors Fabien Galthié aussi, les gens adorent.
Et puis cette équipe de France, elle gagne, à part que le match perdu contre l'Afrique du Sud, elle gagne.
Et puis elle joue bien.
En automne, elle n'a pas été très flamboyante, mais elle gagne. Mmh. Et elle fait plaisir.
Non, mais t'as raison, Denis. C'est vrai que le grand public, hein, alors, j'aime pas trop ces mots un peu valises là, mais commence à identifier beaucoup de monde. Hein, oui. Voilà, Antoine Dupont. Oui. Je pense que Thomas Ramos est quand même identifié par beaucoup de monde maintenant.
Oui, c'est sûr.
Diarré, même les Charles Olivon, même les Mathieu Jalibert aujourd'hui, qu'on voit dans les pubs
beaucoup,
et tout ça,
bien sûr.
Un peu partout. Et donc c'est vrai que cette génération, elle est très sympathique et avec un entraîneur.
Pour aller dans ton sens, Georges, ces joueurs-là deviennent aussi bankable pour les marques.
Exactement.
Mais elle est sympathique.
En dehors du rugby, à une époque, tu ne voyais pas des Français faire des pubs, à part Michalak et Chabal. Aujourd'hui, tu as plein de Français qui ont. Plein de joueurs de l'équipe de France qui sont pour des marques que tu vois dans les pubs avant match.
À part la pub Gédimat avant le tournoi, ça, il y a toujours eu.
Oui. Mais sinon, cette équipe-là, elle est.
Tu ne m'enlèveras pas de l'idée quand même que par rapport. Alors, je ne vais pas critiquer le foot, j'adore le foot, tu le sais.
Mais tu vas le faire quand même, là.
Non, je fais un peu parce que tu regardes les joueurs, il y a aussi la communication qui est importante. C'est-à-dire que les joueurs, quand ils parlent, tu sens qu'ils sont. Je veux dire, c'est pas la même.
Déjà, ils sont plus accessibles.
Ils sont accessibles et puis ils sont plus simples. Ils sont plus simples, ils sont pas langue de bois, ils sont, je trouve. Non, mais ça compte, je crois. Non, bien.
Non, mais Denis, alors j'en reviens à ce que type de plus en plus, mais c'est normal, ça se professionnalise, mais c'est vrai qu'ils sont mais
par rapport au football. Et...
Ah oui, non, mais
c'est là où j'en reviens quand même. Là où j'en reviens, Denis, après, malgré tout, le foot, il y a presque trop de compétitions, trop de matchs aujourd'hui, tu t'y retrouves plus. J'en reviens au fait que le tournoi des destination soit une rareté, tu as 5 matchs dans l'année, immuablement, tu sais que tu affrontes ces 5 équipes-là en février, en mars. Ça n'arrive qu'une fois dans l'année. Alors après, il y a les tournées de novembre ou les tournées d'été, mais qui sont un peu plus obscures. Mais le tournoi reste un rendez-vous où tu sais que pendant 2 mois, il y aura des matchs tous les week-ends à la télé. Et je pense que ce côté un peu sacré, un peu rare, fait aussi le fait que ça attire du monde autour de cette équipe de France.
Alors la question, est-il trop tôt pour s'enflammer avec cette équipe? Ça fait partie des éléments de réponse. On voit que le public s'enflamme avec ce 15 de France. L'un des autres arguments peut-être aussi, alors t'en as parlé Denis tout à l'heure en parlant de Fabien Broboiry qui découvrait le 15 de France, c'est cette nouvelle génération. Alors où est-ce qu'on peut la commencer, où est-ce qu'on peut l'arrêter, parce qu'on peut même commencer par Bielbiaré au moment de la Coupe du Monde, mais depuis cette génération-là jeune, on a l'impression qu'ils arrivent, ils défoncent la porte et ils s'en fichent complètement. Tiens, on va l'écouter. C'était Fabien Broboiry, auteur d'un essai hier au micro de Wilfried Templier dans les travées de Cardiff.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est rêvé. Dans ce grand stade, forcément, la semaine, je faisais qu'y penser. Je me suis bien préparé. Et c'est vrai que quand on entre dans le stade et qu'on chante sa première Marseillaise, c'est assez particulier. D'autant plus que je sais que j'avais mes parents dans les tribunes et qu'il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, c'était un plaisir de jouer ce match. Et je pense que j'oublierai jamais avec ce résultat à la fin qui fait forcément plaisir pour l'équipe.
Il a 20 ans, hein,
Broboiry. Il pourrait jouer le tournoi U20, Fabien Broboiry. Il est éligible. Pour le tournoi national.
Non, mais on a écouté Lenny Nouchi, 22 ans, tout à l'heure. On a l'impression que. Bah, on pourrait parler de tous les autres joueurs qui arrivent, les Palois, Tissokbé.
Non, mais genre, il faut remonter à la génération Romain Tamac. Hein. La première génération championne du monde des moins de 20, donc 2018-2019, Romain Tamac et Arthur Vincent notamment, qui sont champions de France, champions du monde à Béziers, entraînés par Sébastien Piccheroni. C'est le début du renouveau de l'équipe de France. Ces joueurs-là ont tapé aux portes de l'équipe de France en 2019. Ont été de la génération 2023 et maintenant il y a la génération qui est championne du monde des Lenny Nouchi, des
2022
Oscar Jégou,
et 2023.
Des deux porteurs, exactement, des Jégou, des deux porteurs, toute cette génération là arrive et maintenant il y a la nouvelle génération, les Broboiry, les Gourgues. Donc en fait,
ils sont même pas passés ou presque par les U20.
Exactement. Donc en fait, tu peux presque remonter à pas tout à fait 10 ans Georges, mais il y a 8-10 ans qu'on commence à avoir un vivier français très solide et aujourd'hui Fabien Galthié il en tire profit.
Et ce qui est dingue, ce que dit Julien, c'est que ces mecs-là ont réussi à s'imposer en top 14. Si on prend la génération 2022-2023,
en plus.
Quand tu vois l'équipe, il y a Oradou, il y a Bossolo Tuilagi, il y a Jégou, il y a Nouchi, il y a Baptiste Jonot, le demi-mêlé Clermontois, Coste de Porter. C'est des mecs qui jouent régulièrement toutes les semaines en top 14. Et c'est ce passage-là.
Qui sont même capitaines en club.
Et qui sont performants. Et c'est aussi ça, quand tu parlais de la vision des anglo-saxons, c'est qu'eux ont beaucoup plus de mal à donner leur chance aux jeunes en Angleterre, en Irlande notamment.
Les Gallois, ils ont formé personne.
Bien sûr, eux, ils ont formé personne en plus. Mais on arrive prêt beaucoup plus vite. Et surtout, j'ai l'impression que les managers de clubs, vu qu'il y a plus de matchs et qu'ils ont besoin de s'appuyer sur eux, ils donnent plus vite leur chance à cette jeune génération qui est prête rapidement.
Tu hallucines un peu, Denis, quand tu vois cette génération-là qui vient finalement sans trop réfléchir. Elle défonce la porte.
Non, mais j'hallucine, oui, parce que.
T'as parlé de Broboiry tout à l'heure, mais tous,
très jeunes, mais tous, là, ils arrivent. Moi, je pense qu'ils sont dans un.
Ça correspond aussi à l'époque, hein.
Oui, ça correspond
sports,
à l'époque.
Non, mais on parlait de plus en plus tôt. Non, mais Paul Sexas.
Non, puis la formation, elle vient beaucoup plus en amont. Donc, à 14, 15 ans, déjà, 16 ans. Avant, c'était pas le cas. Avant, tu arrivais très tard dans le rugby pro. Enfin, qui était pas le rugby pro, mais qui était un rugby de haut niveau.
Là, il y a un troisième ligne du Racing, Auguste Albuisson, 17 ans, qui a joué les 4 matchs de Challenge Cup. Ça n'arrivait pas avant, ça, des joueurs de 17 ans.
Non, mais je crois qu'aujourd'hui, depuis 10, comme le disait Julien, depuis 10 ans, ils ont plus peur, quoi. Ils ont plus peur du haut niveau parce qu'ils le pratiquent très jeunes. Et en fait, ils arrivent aguerris, ils arrivent prêts à, par rapport à la pression de l'événement, par rapport à la pression d'un match, mais ils savent le gérer en amont et ils s'intègrent très rapidement. Broboiri, il a fait une sélection, déjà il s'est intégré, voilà, en 10 jours il s'est intégré. Donc c'est vrai que je suis bluffé, mais en même temps c'est l'époque qui veut ça.
Mais Denis, est-ce qu'on a déjà eu un potentiel comme ça?
J'arrête pas de le dire. Je pense qu'on a la meilleure génération de toutes les générations confondues aujourd'hui.
De l'histoire de 15 de France.
Oui, de l'histoire.
Genre,
oui,
j'ai souvent dit qu'on a tendance à la minimiser, mais je pense que la plus belle équipe de France de l'histoire, c'est celle de 1995, qui perd en demi-finale en Afrique du Sud. Je pense que c'est cette équipe-là qui regroupait le plus de talents sur le papier à l'époque. Mais il y avait 15 joueurs. On peut les citer, Califano, Merle, Rouma, Benazi, Cabane, Saint-André, Sella, et j'en oublierai Sadourny, évidemment. Denis les connaît quasiment tous, mais c'était peut-être la plus belle des générations qu'on ait eues, celle qui était la plus forte et la plus proche d'aller chercher quelque chose. Mais t'avais 15 ou 18, 20 joueurs. Aujourd'hui, Fabien Galthié, très honnêtement, je pense qu'il a 50 joueurs de très très haut niveau. Alors on a des postes un peu en difficulté, on parlera toujours de notre poste de pilier droit, mais là, il faut te rendre compte que Gaël Ficou, il doit se demander quand est-ce qu'il va revenir en équipe de France. Là, aujourd'hui, ça va être compliqué. Damien Penaud,
oui,
serait titulaire dans peut-être 9 des 10 sélections au monde à l'aile. Aujourd'hui, il est relégué. Ficou serait peut-être titulaire. Aujourd'hui, on a un vivier immense à tous les postes. La troisième ligne, n'en parlons pas. Et il y en a des joueurs qui déboîtent de partout. Et tu te dis même aujourd'hui que quand tu perds ta place, que t'es légitime.
Que t'es Romain Tamac, par exemple.
Ouais, Romain Tamac, il va. Mais même, regarde, Moefana. Il sort de l'Irlande, tout le monde dit, ouais, c'est énorme, Moefana. il nous a manqué en novembre. Broboiri fait un match, je te dis, ouais, Moefana, il va avoir du mal à retrouver sa place. Flamand, qui était un indiscutable de Fabien Galthié, est remplacé par Charles Olivon.
Barassi, en novembre, aujourd'hui, aurait été titulaire, exactement. On sait pas s'il va revenir.
Ouais. Tu as un vivier aujourd'hui, Georges, qu'on n'a jamais eu dans l'histoire de l'équipe de France. C'est-à-dire que tu te fais plus de nœuds au cerveau quand tu perds un joueur. Alors évidemment, si on perd Antoine Dupont, on va être embêté. Mais aujourd'hui, tu perds un joueur, tu te dis que voilà, il y a un tel vivier. Les joueurs, ils jouent tellement en club que tu sais que tu peux leur faire confiance. Fabien Galthié, il a pas eu peur de lancer Broboiri au Pays de Galles samedi. Quand je pense que Denis, à son époque, lançait un jeune de 20 ans au Millennium de Cardiff, on aurait hésité peut-être. Ouais. Aujourd'hui, on hésite.
Non mais effectivement, on a l'impression que Broboiri, comme tu le disais, Julien. Peut-être qu'il peut déjà postuler par rapport à la suite du tournoi.
Je sais pas comment tu peux l'enlever.
Il postule.
La vérité, tu vas plus loin, mais je sais pas comment tu peux l'enlever.
Pour toi, tu le mettrais pour la suite du tournoi là.
Mais je le mettrais, mais tout le temps.
Déjà, Moefana est blessé. Donc
Moefana est blessé.
Mais le problème, si Broboiri il réitère ses performances-là, comment tu fais pour l'enlever?
Dès qu'un jeune est arrivé là, on a en souvenir Gourgue aussi qui avait été impressionnant pour ses premiers pas.
On parle pas de deux porteurs. Deux porteurs avaient été énormes contre l'Irlande.
Un petit moment, mais tous arrivent à être performants.
Mais après, c'est un problème de riche et c'est le.
Mais ça donne Galthié qui va devoir. Ça nous oblige aussi en termes d'ambition.
Bien sûr, totalement. Et après, c'est aussi des profils qui sont différents, je trouve. Broboiri, Moefana, tu leur demandes pas la même chose, ils sont pas capables de faire la même chose. Gaëtan, de Porter, c'est pareil. T'as des mecs qui, comme dit Julien, t'as 3-4 mecs par poste qui en plus t'apportent des choses différentes. Donc c'est génial, mais comme tu dis, Georges, c'est aussi une responsabilité et un poids un peu plus gros sur les épaules de Fabien Galthié de dire à toi maintenant de trouver la bonne combinaison pour faire jouer tous ces mecs-là qui sont les plus forts du monde peut-être, ou en tout cas dans le top 2 des plus forts du monde, pour aller gagner des titres.
Non mais je pense que
c'est là où je voulais saluer Fabien Galthié. Denis, au début, pour dire que voilà.
Ça fait deux fois que tu coupes la parole à Denis.
Je
suis à distance, alors j'explique aux auditeurs, je suis à distance.
Attention, je te rappelle qu'il a un jet privé en 20 minutes, il est chez toi.
Non mais c'est là où je voulais aussi saluer
Fabien Galthié en disant que c'était mon meilleur poteau du week-end. Je trouve que déjà, il a fait plaisir. Il a répondu à l'attente des joueurs de jouer plus au rugby. Donc ça déjà, c'est preuve d'une ouverture d'esprit. Il n'est pas fermé dans son carcan de la dépossession, de la défense. Il a écouté les joueurs et ça, je trouve ça bien. Et il a aussi accepté aujourd'hui d'ouvrir la concurrence, ce qu'il n'avait pas forcément fait lors de son premier mandat, où on avait, et peut-être à juste titre, de faire confiance à des hommes cadres pour les amener jusqu'à la Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, il a accepté aussi l'idée de se dire que la politique de l'homme en forme, alors peut-être pas à tous les postes, il faut peut-être pas brûler Jalibert s'il rate son match en Italie par exemple, mais je pense qu'il faut aussi faire confiance à cette jeune génération qui arrive, qui tape à la porte et leur donner les clés du camion s'ils sont prêts à les prendre. Et je pense que Fabien Galthié, sur ce début de tournoi, a accepté de plus jouer au rugby, et ça nous régale, et a accepté d'ouvrir la porte à des gens à qui il a fermé peut-être à un moment. Et
non, mais surtout,
ces deux ouvertures-là de Fabien font le résultat qu'on a aujourd'hui.
Non, mais surtout, il faut qu'il arrête avec le raisonnement de dire on va mener la Coupe du Monde des joueurs à 50 sélections. C'est de là. Ça veut rien dire.
Et je pense que c'est data, Denis.
Non, mais je pense qu'il en est revenu. Il en est revenu, mais il était persuadé que il fallait ça pour une Coupe du Monde.
C'est ce que font les Sud-Africains.
Oui, mais bon, et là, tu aperçois que.
Il n'y a pas une façon de gagner.
Maintenant, il a un boulevard devant lui parce qu'il a une jeune génération qu'il va falloir qu'il choisisse, qu'il fasse des choix forts dans les deux prochaines années. Ouais. Jusqu'à la Coupe du Monde. Maintenant, il connaît le talent de chacun, il sait exactement où il va. Et...
Non, parce que c'est vrai que là, il va être particulièrement attendu sur le management.
Oui,
parce que
oui.
Là, sur le management des égos, des uns et des autres, quand on a 50 joueurs, comme tu le disais, Julien, sur lesquels choisir, ça va faire forcément des frustrés. Hein, on a vu Damien Penaud,
par
exemple.
Oui, mais Jean-Rovien, c'est des choix. Là, c'est des choix. Oui, mais Georges, c'est des choix faciles, quasiment. Là, Gaël Ficou, tu vois, alors évidemment, c'est choquant le fait de sortir Gaël Ficou à deux sélections de sa centième. Mais là, quand t'es Fabien Galthié, que t'appelles Gaël Ficou en début de semaine, tu lui dis Gaël, je suis désolé,
mais regarde,
Moefana, Deporter, Brobouari et Gaëton, il y a le petit Gourc qui est là. Je suis désolé, Gaël, aujourd'hui t'es plus invité. Alors,
la galerie, c'est pareil.
On te ferme pas la porte, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés devant toi, et donc, je trouve que moi, les choix de Fabien, ils sont, pour moi, le plus difficile pour Fabien aujourd'hui, c'est s'il doit réintégrer Penaud. Tu vois, s'il doit rappeler Penaud en disant, ben voilà, j'ai un blessé, je te rappelle. Pour moi, le plus difficile, c'est ça.
Et Romain, mais gérer Romain, il a raison.
Romain, il est blessé. Ça va être un problème.
Mais
Penaud, c'est un choix. Ntamack, c'est contraint et forcé. Il a été blessé, il pouvait pas le sélectionner. Penaud, il était disponible. C'est ça qui est difficile.
Est-il trop tôt pour s'enflammer sur cette équipe? Donc, sur le potentiel, j'ai l'impression que du coup, on peut y aller. On s'enflamme complètement. Alors, sur le jeu, t'en as un peu parlé, Julien, il y a quelques instants. C'est vrai que ce qui rassemble aussi, c'est que qu'on connaisse en profondeur le rugby ou pas. Je pense que tout le monde s'éclate à voir cette équipe de France, que ce soit contre l'Irlande, la première mi-temps. En fait, il y a pas besoin de comprendre une offload, les renvois et tout ça. Enfin, tout le grand public peut très bien comprendre qu'on kiffe tout simplement en regardant ce jeu de Fabien Galthié. Puis il y a aussi cette connexion qu'on a vue entre les trois là, entre Dupont, entre Jalibert et Thomas Ramos. Non, mais ça, ce triangle là, les gars, offre aussi plus de possibilités et du jus de crâne pour les adversaires, on en a déjà un petit peu parlé, mais ça fait partie de l'enthousiasme et de l'enflammade qu'il peut y avoir autour du jeu de cette équipe.
Et quand Denis disait que Mathieu Jalibert, Antoine Dupont, des gens se demandaient si ça allait marcher, cette solution, donc pour expliquer rapidement, Thomas Ramos vient très souvent se mettre en ouvreur, donc en premier attaquant derrière Antoine Dupont, et Mathieu Jalibert prend un peu plus d'espace sur le large. Lui, les espaces, c'est là qu'il est le plus fort, c'est quand il a du temps devant lui pour faire des choix, pour prendre de la vitesse, et ça fait qu'on a un relais supplémentaire au milieu du terrain qui permet à Mathieu Jalibert d'être dans des conditions absolument optimales pour jouer son jeu. Et on va en reparler sans doute de Mathieu, mais dimanche contre le Pays de Galles, c'est un essai, trois passes décisives, deux passes au pied à Tissokbe et Bielbiaré, une dernière où il transperce et la donne à Brobouari. Il fait un match énorme parce que aussi Fabien Galthié le met dans les conditions les plus optimales pour qu'il brille. Et cette charnière à trois, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien pour
lui. Non, mais la vérité, c'est qu'il se sent, Fabien, il a compris qu'à un moment donné, il fallait qu'il s'ouvre aux autres et qu'il ne ferme pas la porte à un grand talent. Voilà, c'est tout. Il y a une discussion, et c'est pour ça que Mathieu est libéré en équipe de France aujourd'hui, et qu'il n'était pas forcément par le passé, où il avait beaucoup de pression de son sélectionneur.
Non mais alors pour le coup, on vient de passer seulement deux matchs, on se posait la question sur est-ce qu'il allait réussir à être à l'aise, que tu utilises le terme libéré.
Oui, il est
deux matchs. Non mais Julien, c'est une victoire quand même ça pour le 15 de France et pour Fabien Galthié.
Ben oui, parce que ça t'offre une solution en plus. Parce que voilà, n'oublions pas que Fabien Galthié, il aime Romain Ntamack, et je pense qu'il reviendra dans la concurrence, Romain Ntamack. Mais ça nous offre aujourd'hui deux profils de joueurs différents en fonction de l'adversaire. On peut même peut-être pourquoi pas même les associer un jour. Ça avait déjà
ça
été
déjà essayé,
mais non, mais
non, on le mettre remplaçant l'un ou l'autre.
Oui, exactement. Non, mais exactement. Non, mais aujourd'hui, évidemment que c'est une victoire d'un pour Mathieu Jalibert, qui valide son très bon début de saison et qui est arrivé sur les dans l'équipe de France un peu sur la pointe des pieds en se disant est-ce que vraiment on a envie de moi, est-ce que je vais avoir la liberté de faire du Jalibert. On en avait parlé avec Pierre.
Et puis il a fait les efforts pour revenir aussi. Attention.
Le jeu de l'équipe de France, la ligne de trois quarts paraît très sexy. Si Jalibert a le droit de faire du Jalibert. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, Jalibert a le droit de faire un petit peu de Jalibert. Ouais, mais il a le droit malgré tout, le petit coup de pied par-dessus. Il se serait peut-être pas permis il y a un an. Les transversales au pied, ce décalage, t'en as parlé, le fait qu'il joue en deuxième attaquant sur les lancements de jeu où il va vite chercher les extérieurs. Tu as l'impression qu'on a adapté le jeu. Non, mais
y a
Denis,
pas que
on a
ça,
adapté
c'est...
le jeu à Jalibert aussi.
Oui, donc. Mais il n'y a pas que ça. Quand tu le vois évoluer, c'est plus le même Jalibert. Je pense qu'il a fait beaucoup d'efforts. Il a compris qu'il fallait changer, évoluer, notamment au niveau du plaquage, où maintenant, c'est plus le même joueur. Donc, pour moi, il est transformé. C'est plus le même Jalibert. Alors, même si l'année dernière, il a fait de très grands matchs, je trouve que le Jalibert d'aujourd'hui n'est pas le même que l'année dernière. Et qu'il a fait les efforts, il a évolué, il a progressé dans tous les secteurs. Et même si tu me dis qu'il fait de Mathieu Jalibert, je pense qu'au niveau aujourd'hui, il est beaucoup plus dans la maîtrise qu'il était par le passé.
Ouais, et on se demandait si ça allait bien marcher avec Antoine Dupont, si la connexion allait permettre, en tout cas, à Jalibert de s'exprimer comme il le voulait. Antoine Dupont, bah, le kiff pour lui maintenant, c'est qu'il a deux numéros 10 derrière lui au moment de libérer le ballon. Et du coup, ça alimente forcément l'appétit offensif de cette équipe. On l'écoute, Antoine Dupont.
Je pense que d'avoir un arrière qui est capable de jouer 10 aussi, ça permet de suppléer le 10, qu'il ait un regard avec plus de recul, de voir plus d'opportunités, plus de lucidité quand il a les opportunités en face de lui. On a vu Mathieu qui s'était en deuxième receveur plusieurs fois breaker la ligne, donc c'est un système qui fonctionne pour le moment. On a été capable de s'adapter aussi, parce qu'au début on était beaucoup sur la latéralité, on a été un peu plus axial au fur et à mesure du match, donc ça montre qu'on a aussi une capacité à être amphibie, à pouvoir s'adapter à ce qui se propose en face de nous.
À être amphibie, ça pourra être fort sur tous les terrains. On a l'impression d'entendre un joueur d'échecs là, qui est content d'avoir de meilleures pièces à disposition.
Oui, mais alors par contre, en l'écoutant, c'est vrai que si tu as Romain Tamac, tu peux pas faire le même jeu. C'est pas le même profil. Tu peux pas faire avec. D'abord, ils ont pas les mêmes cannes, ils ont pas les mêmes. Donc tu peux le faire avec Mathieu. Je sais pas si tu le ferais avec.
Mais tu mets pas Ramos dans ces cas-là. T'en mets un là.
Oui, tu mets Ramos. Donc tu changes.
Tamac joue le rôle de Ramos. Ramos, c'est un. En fait, Ramos, ce qui t'apporte, c'est qu'il est capable d'être très propre, de venir comme ça en distributeur, en premier attaquant, comme le fait Ntamack. Mais il a aussi, je trouve, une dose de magie qui fait que c'est sur les 7 d'Atisogbe, où il est au relais de Bielbiaré, où il te sort cette passe, là, tu sais pas trop d'où. Il est capable de prendre des initiatives qui fait que, comme dit Dupont, c'est un 10 lui aussi. Et d'en avoir deux, on parlait du calvaire pour les défenses. Mais le danger vient d'absolument partout dans cette équipe.
Mais moi, je trouve que le ton d'Antoine Dupont dit quelque chose quand même. Oui. Non, dont il le dit, sur le plaisir qu'il peut avoir à jouer avec ces deux-là de cette façon, ça dit quelque chose. Alors qu'on a beaucoup parlé de la connexion avec Jalibert et tout, si ça allait prendre, le fait qu'il préférait jouer avec Ntamack et tout ça, là, les mots qu'il utilise sont forts.
Oui, mais les mots, mais il y a aussi le fait qu'Antoine s'est rapproché de Mathieu, ce qu'il ne faisait pas avant. Donc il y a aussi son rôle de capitaine qui est très important, parce qu'il a compris, il est assez intelligent, Antoine, pour savoir que l'équipe de France, elle appartient à tout le monde, mais elle appartient aussi à ceux qui la font progresser.
Il s'est rapproché de Mathieu.
De Mathieu Jalibert.
C'est-à-dire ?
Ils ont, dans la communication, ils se parlent, ils se voient, ils mangent ensemble, c'est plus le même.
Ah, même en dehors du terrain, tu veux dire ?
Oui.
Il y a une connexion.
Il y a une connexion, parce que c'est évident, s'il n'y a pas de connexion, il ne peut pas y avoir de jeu sur le terrain.
C'était moins le cas avant ?
Oui, c'était pas du tout le même cas avant. Ouais. Pas du tout.
Mais ça, c'est pas anodin, les gars, c'est pas anodin.
Oui, mais c'est le rôle c'est le rôle d'Antoine. C'est le capitaine, c'est le taulier, c'est lui qui doit se comprendre à un moment donné que, pour que l'équipe de France grandisse, il faut mettre tous les éléments dans les meilleures conditions. Il savait très bien, Antoine, que Mathieu était pas forcément libéré parce que pas assez de confiance de la part de Fabien. Et là, je pense que maintenant, il est en pleine confiance par rapport à Antoine, par rapport à Fabien. Et on le voit, c'est pas le même joueur. Pour moi, c'est pas le même joueur.
Et tout le monde peut s'exprimer finalement d'une meilleure manière sur le terrain. Donc on s'enflamme sur le jeu. Oui. Il n'est pas trop tôt pour s'enflammer sur le jeu, sur le potentiel, sur l'engouement. Tiens d'ailleurs, Morgan Bessa qui travaille avec nous sur l'engouement, qui m'a rajouté cette information, que également sur nos différentes plateformes RMC Sport, on a également depuis la dernière tournée de plus en plus de trafic, c'est-à-dire de gens qui cliquent, qui viennent sur les articles du 15 de France, et ça montre que l'engouement, il est au-delà même, enfin en tout cas un engouement plus fort que l'on a vu par les années précédentes. Alors, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, tout ça là, ça nous oblige un peu. Finalement peut-être en termes de résultats. Les Anglais ont perdu, les seuls à pouvoir faire le Grand Chelem ce sont les Français, on ne l'a pas fait depuis 2022. Est-ce que le Grand Chelem est une évidence maintenant? Bah tiens, Antoine Dupont.
Une obligation.
Dupont, une obligation même. Tiens, Antoine Dupont, on lui a posé la question hier.
Je pense que c'est ce pourquoi on se prépare depuis le début du tournoi, pour essayer de gagner tous les matchs. Pour le moment, on est arrivé à gagner les deux premiers. Vous allez faire votre boulot, nous on va faire le nôtre. Je pense qu'on a cette expérience-là aujourd'hui, de se dire que jusqu'à la dernière journée, le tournoi il sera pas gagné. Aujourd'hui, on est en bonne position, oui, mais il reste trois gros matchs. On voit l'intensité des matchs chaque week-end, donc c'est très dur de gagner tous les week-ends. Donc on va se concentrer à ce que Fabien disait, mais c'est la vérité, c'est la meilleure façon d'arriver au bout de cette compétition, c'est prendre les matchs les uns après les autres avec le plus de sérieux possible, le plus de concentration possible. Pour pouvoir se diriger, être en meilleure posture à la fin du tournoi.
Bon, Antoine, les matchs les uns après les autres, il va falloir le gommer de son lettre.
Non, mais c'était pas
plaît.
Le pire. Hein. Antoine Dupont dit quand même, c'est ce pourquoi on se prépare depuis du tournoi. Ouais. Les autres, on sent qu'ils sont infusés à la sauce, vous emballez pas.
Ouais, ouais.
Léni Nouchi nous a dit. Ça, c'est pas trop moi qui décide, mais les cadres me disent de prendre les matchs les uns après les autres. Alors, qu'est-ce que je vais
non, faire?
Mais
qu'est-ce que c'est que ça? Allons faire du média training.
C'est un discours qui.
Non, mais. Non, mais en tout cas, Antoine Dupont écoute entre les poteaux, je crois, hein, parce qu'il a dit vous allez faire votre travail. Il savait très bien qu'on allait parler aujourd'hui du Grand Chelem. Mais oui,
Fabien Galthié, on lui a demandé est-ce que c'est une voie royale pour le Grand Chelem? Il nous a répondu la voie royale, c'est celle de rentrer à Marcoussis et de travailler quand même.
Oh là là, insupportable. Non, mais Julien, t'as dit obligatoire, Grand Chelem.
Oui. Non, mais j'ai. On l'a dit quand on a présenté le tournoi, Georges. On avait dit avec Pierre, il me semble, dans nos paris, et même Denis, que c'était le Grand Chelem était forcément l'objectif de cette équipe-là. On l'avait dit avant de voir ce vivier incroyable des Bleus et ce projet de jeu de l'équipe de France. On l'avait dit avant le match contre l'Irlande. Aujourd'hui, du podcast qu'on vient de faire sur ce dont on a parlé, le jeu, l'enthousiasme, le vivier, le calendrier qui est favorable malgré tout avec l'Italie. Alors évidemment, on va avoir ce déplacement très compliqué en Écosse. Mais aujourd'hui, oui, il y a un boulevard pour aller faire ce Grand Chelem qu'on n'a plus fait depuis 2022. Alors il faudra aller taper les Écossais chez eux. Mais cette équipe de France, elle est aujourd'hui armée pour aller gagner en Écosse sans, voilà, et se faire un kiff total. Mais... de finir au Stade de France, Georges, un samedi soir, lever le Grand Chelem devant des Anglais qui vont faire une tête de 3 pieds de long, mais c'est jouissif, rien qu'à imaginer la scène. Donc oui, allons vers ça.
Écoutez, ce week-end dans les grandes gueules du sport, pas pour faire un peu de l'autopromo, hein,
mais quand même.
Non, mais un peu quand même, hein, sacrée émission, je vous invite à l'écouter en podcast également d'ailleurs.
Surtout samedi prochain.
Surtout le samedi. Non, mais on a posé la question sur est-ce que de ne pas gagner le Grand Chelem sera un échec pour le 15 de France. Je veux vous dire que les auditeurs ou les messages qu'on a eus pendant toute l'émission était sur, bah oui, ce serait un échec parce que l'enthousiasme il est tellement important, on a envie de valider quelque chose, justement, avec cette équipe, Denis.
Bah, c'est normal qu'on ait c'est l'espoir, c'est même pas l'espoir, c'est qu'aujourd'hui c'est la demande, c'est on en, il nous envoie cette envie, quoi.
Si on ne le fait pas, c'est un échec un peu quand même.
Non, c'est pas
Denis.
Un échec.
Mais ça voudra dire qu'il y a eu un échec pendant le tournoi.
Oui,
pour moi, perdre en Écosse, ça serait une grosse déception, et perdre contre l'Italie ou l'Angleterre aussi. Donc ça voudra dire qu'il y aura un truc qui n'aura pas marché.
Ben
bah
oui, c'est ça,
tournoi.
Ça viendra peut-être pas valider totalement.
Si Denis,
tes
si
choix.
On fait pas le Grand Chelem, ça sera un échec cette année, Denis. Si on fait pas le Grand Chelem,
ben, tout dépend que le match que moi je parle, il faut voir la photographie du match en Écosse. L'Écosse, ça peut être un très grand match et tu perds d'un point. Est-ce que ça va être un échec même si tu gagnes le tournoi? Je ne suis pas sûr.
Je pense que
il y a toujours évidemment la manière dont on perdra en Écosse.
Mais non, mais tu gagnes le tournoi, tu vas en Angleterre, tu gagnes le tournoi, tu regagnes le deuxième. Oui, après, mais c'est moi je pense.
Rappelle-toi la défaite à Twickenham. Tout le monde était très déçu de ce match en disant, bah quand même, ça aurait pu valider quelque chose d'aller gagner là-bas et le tournoi aurait quand même une tête différente. Donc oui, pour moi, les trois adversaires qui restent, ça va être plus dur que ce qu'on a fait depuis le début du tournoi. Mais il faut gagner. Il faut.
Non, mais la différence, c'est
bien
que
qu'on gagne un match qui compte, Denis.
Ouais, c'est
je
ça.
Pense que l'équipe de France est plus forte cette année que l'année dernière.
Ah, je suis d'accord avec toi.
Donc c'est en ça qu'on peut dire.
Mais c'est quand la dernière victoire qui compte? C'est en Irlande, c'est l'année dernière.
En Irlande, l'année dernière.
Ça,
ouais.
C'était une victoire qui comptait. On en a très peu, finalement, des matchs comme ça durs qu'on arrive à gagner. Ouais. L'Afrique du Sud en novembre, on le perd. La Nouvelle-Zélande cet été avec l'équipe B, on le perd. Il faut faire une grosse perf. Et pour moi, ça sera en Angleterre ou. Enfin, en Écosse ou face à l'Angleterre.
C'est l'équipe la plus forte, plus forte que l'année dernière, tu dis, Denis. Même ça viendrait valider peut-être que ça, c'est peut-être l'équipe la plus forte qu'il y a eu Fabien Galthié entre ses.
Une
entre
des plus fortes.
Non, mais ouais. ça, 2022.
Ça, non, mais un Grand Chelem validerait ça,
bien
en
sûr.
Fait. C'est ça que je veux dire.
Oui,
an,
oui bien
monde.
Sûr. Oui, et puis ça marque les esprits
et
de tout le monde.
Esprits,
oui, donc, évidemment. Mais c'est bon, ce serait bien de gagner le Grand Chelem, évidemment. Mais Encore une fois, de parler d'échec, si tu perds un grand chelem, que tu es premier et que tu perds en Écosse d'un point, je ne crois pas que ce soit un échec.
Mais pour moi, faire le tournoi là, et c'est dans longtemps, mais battre l'Afrique du Sud en novembre, ça serait deux événements qui, je pense, sont importants pour les Bleus en vue de la Coupe du Monde pour faire le plein de confiance.
Alors, vendredi, dans l'apéro des poteaux, on va présenter le France-Italie de dimanche à Lille, évidemment, mais juste peut-être dans la préparation de cette semaine, en dire un mot. C'est le match le plus dur depuis le début du tournoi qui nous attend ?
Je ne crois pas, moi.
Je ne pense pas.
Je pense que c'est en Écosse.
Non, pour moi, la réception de l'Irlande, c'est quand même plus. Ça implique plus de choses que la réception de l'Italie. L'Italie monte en puissance.
Vous avez dit il y a quelques instants, les trois prochains matchs qui arrivent sont peut-être les plus durs.
Ouais, mais moi, je suis pas inquiet contre l'Italie, bizarrement.
Non, non plus. Pour moi, le chemin de l'Irlande et de l'Italie se croise. C'est-à-dire que l'Italie est en train de progresser, l'Irlande est en train de régresser. Pour moi, l'Irlande, ça reste quand même un adversaire qui, je pense, est plus costaud. L'Italie.
On a fait match nul contre les Italiens.
Et on leur rend pas 73 l'année dernière. Donc, c'est aussi ça de dire que si la France joue à son niveau, il n'y aura pas de souci face à l'Italie. Ça sera plus dur en Écosse et en Angleterre.
Alors après, c'est plus un test qu'avant.
Oui, c'est un vrai test parce qu'ils risquent de nous contrarier en mêlée fermée. Oui. On l'a vu, ils ont été très forts contre les Irlandais et très forts contre les Écossais. Donc là, il va y avoir un vrai challenge, on va dire, au niveau de la mêlée fermée. On va voir. C'est un vrai test. Là, on passe un vrai test.
Ah, il faut le préparer sérieusement cette semaine.
Ça va être le cas.
Oui, non, mais je suis d'accord. Alors, pour moi, c'est un vrai test pour le paquet d'avant français.
Oui.
Parce que les Irlandais, n'oublions pas qu'on les a joués sans Furlong et sans Porter.
Enfin, comment Furlong a fini.
Oui, c'est vrai. Non, mais malgré tout, dans l'imaginaire, d'avoir ces deux piliers qui ont été pendant un moment les meilleurs piliers du monde, ça a changé. Je trouve que là, on va affronter peut-être l'une des meilleures mêlées.
Puis on a une faiblesse, c'est ça.
Et c'est ça, avec Dorian Aldeguerri, avec ce
Montagne
petit poste.
C'est pas des top joueurs.
C'est cette petite faiblesse qu'on a dans cette équipe de France sur les postes de piliers. Donc je trouve que c'est un vrai test de voir. Et puis je trouve que cette équipe d'Italie, elle a des idées de jeu. Elle va garder le ballon, elle va nous challenger en défense. Parce que pour le moment, on n'a pas trop vu le système défensif français. On a vu quelques failles. Moi, j'ai trouvé quelques failles contre les Gallois là. Mais le match fait. Contre les Irlandais, j'ai trouvé quelques failles aussi. Voilà, moi je trouve qu'on va avoir un test en mêlée fermée et un petit test sur notre défense. Mais oui, c'est pas une énorme montagne, logiquement, qui se présente face aux Bleus. C'est un adversaire solide, mais loin d'être insurmontable.
France-Italie, donc dimanche évidemment, à suivre sur RMC. On vous présentera cette rencontre vendredi dans l'apéro
des
Poteaux à Lille. Exactement. Juste, on va répondre à la question quand même, parce que c'est bien. Est-il trop tôt pour s'enflammer avec le 15 de France ?
Ah non,
enflammons-nous.
On l'avait bien compris, on s'enflamme, on va y aller. Le grand chelem, il est à nous ou pas ?
Oui. Allez.